Rebonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre émission magazine pour tout comprendre, tout apprendre, débattre et qui vous donne aussi la parole au 3921 par internet, page Facebook Europe 1 Midi et puis sur Twitter. Bonjour Julia.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Ravi de vous revoir après la petite éclipse d'hier, ça va mieux?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait là? Écoute... Vous avez une petite écharpe aujourd'hui.
J'ai perdu ma voix, voilà. Figurez-vous.
Ouais, vous l'avez retrouvée.
Je l'ai retrouvée. Ah. Voilà, je suis centrée, tout va bien.
À partir de midi tout à l'heure, nous reviendrons donc dans notre partie actualité sur l'interview de François Hollande. On se penchera avec nos invités sur le fond, avec des politiques et puis sur la forme aussi, avec Jacques Séguéla qui a travaillé avec tout le monde, ou presque jusqu'à présent, de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy. J'attends également vos réactions, toutes opinions confondues, hein, pas uniquement dans un sens, au 3921 et par internet. D'ici midi, le grand air, ça fait du bien, la marche, qu'est-ce qui nous fait marcher? De plus en plus d'adeptes, hein, de la balade à la randonnée, du vagabondage au pèlerinage, ça ne vous a pas échappé d'ailleurs. Les médecins vous recommandent de marcher, ce n'est pas vraiment du sport, mais ça peut le remplacer, c'est un minimum d'entretien physique sans être trop technique, à la limite de bonnes chaussures et hop, c'est parti, un pied devant l'autre. Alors en avant pour ce week-end de Pâques, on vous accompagne pour vous emmener sur la marche qui conduit parfois à de grands voyages, vous en allez entendre parler, de belles rencontres et qui est source d'inspiration pour de grands hommes, Gandhi, Kant, des hommes politiques, le général de Gaulle qui aimait faire quelques pas dehors au grand air, ou encore François Mitterrand et ses flâneries bien connues à Paris, sans parler de Solutré, nous vous en parlons avec nos invités.
Nous sommes en compagnie sur Europe 1 de Bernard Olivier, qui est écrivain marcheur, auteur de nombreux ouvrages relatant ses expériences, du chemin de Compostelle à la route de la soie. Il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres en marchant. Son dernier livre aux éditions RS s'appelle Marcher pour s'en sortir. Et puis il est également fondateur de l'association Seuil, qui aide les jeunes en difficulté par la marche. Et Frédéric Gros est professeur de philosophie à Paris 12 et auteur de Marcher, une philosophie, aux éditions Carnet Nord.
Cette émission est aussi la vôtre, donc vous pouvez venir témoigner, Julia.
Bien évidemment, que vous soyez en train de marcher ou pas d'ailleurs, vous pouvez vous écrire sur la page Facebook d'Europe 1 Midi, sur europe1.fr et puis Twitter, n'oubliez pas, c'est Patrick Roger E1, tout attaché.
Oui, on peut marcher d'ailleurs avec la petite oreillette, hein,
et mais complètement.
Écouter Europe 1
mais
tranquillement.
Ça, écouter Europe 1, ça me semble
podcast,
la base de
il
tout.
Il y a beaucoup qui écoutent également en podcast.
Ils ont bien raison, mais on est bien aussi en direct, si vous pouvez.
Europe 1 Midi. Alors Bernard Olivier, pourquoi commence-t-on à marcher? Parce que vous n'êtes pas, si je puis dire, un marcheur né, vous y êtes mis un peu tard. Hein.
Oui, je m'y suis mis à l'âge de la retraite, précisément,
parce que
j'étais retraité.
Il n'est jamais trop tard.
Parce que j'étais dans une phase un peu difficile, et donc je suis parti, comme une fuite d'ailleurs, vers Compostelle, alors que je suis agnostique, c'est assez paradoxal. Mais et donc j'ai fait Paris-Compostelle en 3 mois, donc 2300 kilomètres, et ça m'a donné une telle énergie, ça m'a permis d'amasser tellement de courage que dans la foulée, j'ai accompli donc la route de la soie d'Istanbul jusqu'en Chine. Au total, j'ai parcouru effectivement 14 000 kilomètres en 5 ans.
Alors ça, c'est une grande tendance d'ailleurs. Hein. Beaucoup de gens qui arrivent à la retraite commencent à marcher et à faire de grandes randonnées, pèlerinages, hein, tels que...
Je crois que pour une raison simple, quand on marche, on pense. Et que quand on est à la retraite, au moment où on passe à la retraite, il y a un moment où on doit faire en quelque sorte le bilan de ce qu'on a vécu et d'essayer de se projeter sur ce qu'est-ce qu'on va faire de cette retraite. Parce que beaucoup de gens sont complètement perdus à l'idée donc de ne plus avoir le bureau, enfin d'avoir
des repères,
voilà. Et donc j'ai été exactement dans cette logique-là et je me suis littéralement reconstruit physiquement d'abord, et ensuite mentalement, parce que la marche précisément vous amène à cette constatation donc de l'Esprit Saint dans un corps saint. Nous sommes fabriqués pour marcher, et donc au fur et à mesure, plus on marche et plus on aime ça.
Oui. Et comment on réussit à se reconstruire? C'est-à-dire que progressivement, les premiers jours, sans doute, ça doit être un petit peu difficile physiquement, même psychologiquement, de se retrouver seul quand même, non?
Oui, tout à fait. C'est pas de se retrouver seul. Moi, j'aime j'aime bien la solitude, mais effectivement, c'est physiquement difficile. Hein, les, quand je suis parti, donc c'était un mois d'avril, donc à quelques jours là, je suis parti un 6 avril, mais il y a 15 ans, j'ai marché sous la pluie pendant 22 jours. Et comme tout le monde, j'ai attrapé des ampoules, j'ai eu mal au dos, mon sac était trop lourd, etc. Mais finalement, ça vous occupe l'esprit pendant quelques jours. Et puis ensuite, eh bien, vous rentrez dans une sorte de logomachie. Ça marche tout seul. Votre corps s'est fait en quelques jours. Hein. Il faut 15 jours, 3 semaines pour être en bonne forme. Et à partir de ce moment-là, vous jouissez de tous les bonheurs de la marche, c'est-à-dire la solitude choisie, hein. La rencontre, parce que ça va avec. Quand vous êtes seul, vous rencontrez facilement les gens. Une espèce de bonheur physique, si vous voulez, provoqué par les endorphines. Enfin, c'est assez connu. Et puis, surtout, vous réfléchissez à votre vie. Qu'est-ce que vous allez en faire? Pour moi, je suis entré dans la retraite désespéré parce que je n'avais plus de repères. Ma femme était morte, mes enfants étaient partis. Je n'avais plus de repères professionnels. J'étais complètement désespéré. Et je dois dire que ça m'a ouvert des tas de fenêtres au point que, effectivement, sur ce chemin de Compostelle, j'ai pris deux décisions. D'une part, de continuer à marcher. Et donc, je l'ai fait. Et deuxièmement, de créer une association donc qui aide des jeunes en très grande difficulté en le faisant marcher.
Ouais. Mais quand même, au tout départ, quand on est un peu seul, désespéré, comme vous l'avez dit, au départ et qu'on a le temps pendant cette marche, puisqu'on ne fait pas des rencontres en permanence. Hein. On gamberge beaucoup, non ? Il n'y a pas un petit risque de basculer encore en plus dans la dépression, non ?
Non, au contraire, oui, bien sûr, parce que d'abord, il y a de la distraction en permanence. Vous savez, la nature, c'est magnifique. Vous avez donc des tas, vous avez un renard qui vous part dans les pieds, vous avez des oiseaux, vous avez des arbres magnifique. Moi, j'adore les arbres.
Vous avez au mois d'avril, en plus, c'est fantastique.
Oui, des très belles forêts.
Vous êtes parti d'où ?
Je suis parti de Paris, de chez moi, comme le faisaient les pèlerins de Compostelle. Hein. Par exemple, quand j'ai fait la marche, je suis parti de Paris, les premiers arbres que j'ai vus, c'était les cerisiers en fleurs. Bon, un mois après, il y avait des cerises, et encore un mois après, parce que j'ai mis 3 mois, je mangeais les cerises sur l'arbre.
Sur les arbres.
Je veux dire, voilà, vous entrez dans le temps. En même temps, voilà, la marche vous donne elle est lente, mais elle vous donne une meilleure notion du temps.
Vous faisiez combien de kilomètres par jour ?
Alors, au départ, je faisais 20, 25, maximum 30 kilomètres. Ouais. Mais plus tard, donc, étant devenu presque un professionnel, dans le désert de Gobi, j'ai parcouru 68 kilomètres en une journée. C'est mon record.
Ouais. Et dans ces conditions, vous empruntiez des routes ou alors des chemins vous aviez,
Oui, alors les chemins, vous avez en chemin France, de randonnée, c'est très très simple. Vous avez des chemins de grande randonnée, c'est très bien indiqué. Vous êtes porté, vous êtes guidé par le chemin. Hein, donc ça, c'est parfait. Quand j'ai marché sur la route de la soie, là, c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait aucune indication. Ouais. Donc, j'ai dû apprendre le turc, puis le farsi, puis le russe pour me renseigner sur ma marche, etc. Mais là aussi, c'est des rencontres fabuleuses.
Oui. Alors, on va parler dans un instant de ces rencontres parce que ça, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, hein, à côté de cette solitude, de cette marche et puis de la gamberge qu'on peut avoir pendant ce temps-là. Juste quand même sur ce point physique, Frédéric Gros, vous, dans votre livre « Marcher, une philosophie », vous dites que marcher, ce n'est pas du sport. Ce que nous a un peu dit, en fait, à l'instant, Bernard Olivier, tout en disant quand même, progressivement, il faut être un peu en forme et puis ça devient un peu de sport. Quoi, parce que le monde ne peut pas quand même aller faire 15, 20, 30 kilomètres par jour. Quoi, hein.
La marche, c'est physique. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. C'est absolument physique. Quand je dis que marcher, ce n'est pas du sport, je veux dire par là qu'il y a quelque chose dans le sport qui rend malade. Ce qui rend malade, c'est le culte de la performance, c'est tout ce qui est technique, c'est ce qui est poussé jusqu'à son maximum, etc. Enfin, on voit bien avec toutes les affaires de dopage, de technique. La marche est plus proche de la santé en ceci que précisément, elle reste un exercice physique, mais sans avoir, évidemment, tous les inconvénients liés au sport en tant qu'il nous pousse aux dernières extrémités et qu'il finit par nous rendre malades.
Ce n'est pas un sport, mais ça entretient physiquement. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, hein, beaucoup de médecins le conseillent de marcher une vingtaine de minutes, hein, c'est ça, une demi-heure par jour si l'on peut.
Hein. Ah oui, ça entretient parce que déjà, comme ça a été très bien dit, ça intensifie vraiment le rapport à soi, parce qu'on n'est pas tant habitué que ça. Je veux dire, on est toujours pris par les écrans, par les conversations, ce qu'il y a à faire, se rappeler, etc.
C'est vrai, on grimpe d'une voiture à une autre, exactement, de chez soi, de l'ascenseur, etc.
Ouais.
Oui.
Exactement. Donc, on ne fait que de passer d'un point à un autre, on court, on est dans la vitesse. Et c'est vrai que la marche, c'est quand même peut-être les moments où on est un peu à la verticale de soi et où on peut, oui, où on peut revenir sur soi. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont très importants.
Et puis, il y a cette petite condition physique qu'on entretient quoi, également. Quoi,
ah, hein, tout à fait. On l'entretient, et on l'entretient, mais justement pas dans l'extrémité, c'est-à-dire en lui donnant un certain rythme et qui est le rythme d'une bonne lenteur.
On se fait du bien sans se faire mal, quoi, ce que vous voulez dire.
Ouais, exactement. Hein, oui.
Voilà.
Dans mon livre sur qui s'appelle « La vie commence à 60 ans », j'ai écrit que si tous les retraités de France marchaient une demi-heure tous les matins, on boucherait le trou de la sécurité sociale.
Ah ben voilà une bonne idée, vous auriez dû la souffler hier soir à François Hollande avant son intervention.
Il n'est jamais trop tard.
La marche, donc vous pouvez réagir, nous faire part de vos témoignages.
Oui,
je veux dire.
Et j'ai celui de Prune qui nous a écrit sur la page Facebook d'Europe 1 Midi. La marche, c'est un état d'esprit, il n'y a rien de plus agréable. Aujourd'hui, enceinte, je dois mettre de côté les grandes balades et les randos, mais c'est tellement bon. Donc je suis sûre que Prune, elle poursuivra la marche une fois qu'elle aura accouché de son joli bébé.
Vous marchez, vous, un peu, Julien?
Je marche, je marche depuis très longtemps, effectivement, à l'extérieur, je fais aussi de la marche sur tapis. C'est un état d'esprit, c'est le premier principe de la méditation. En fait, on est concentré uniquement sur ce qu'on fait. Et c'est absolument pas ce qu'on fait dans la vie au quotidien, puisqu'on est tout le temps en train de penser, réfléchir, anticiper sur les choses. La marche, c'est vraiment très très bon.
Petite leçon de méditation avec Julia.
À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Un petit mot de Nikos Aliagas, les incontournables d'Europe 1. Vous le savez, c'est le week-end à 8h40, un moment plein de confidences avec un week-end, on peut dire, à l'italienne, puisque samedi, il recevra Carla Bruni pour nous présenter son nouvel album. Et dimanche, c'est un chanceux, il recevra la comédienne Monica Bellucci. Je vous ai dit, un week-end à l'italienne, les incontournables d'Europe 1 avec Nikos, c'est le samedi et le dimanche à 8h40.
Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
Je vais peut-être rester ce week-end à Europe 1, hein, moi. Non,
comme par hasard. Ouais. Tiens donc.
Revenons sur le sujet.
Oui, on ira marcher, effectivement, puisque c'est le sujet de la première partie d'Europe 1 midi avant le week-end de Pâques. Qui sont ces gens qui marchent? Pourquoi choisissent-ils la marche plutôt que d'autres moyens de transport? Récits de marcheurs, voilà ce qui nous intéresse jusqu'à midi sur Europe 1, Patrick.
La marche, ça commence au coin de la rue, ce que nous disait tout à l'heure Bernard Olivier ou Frédéric Gros. Et puis, on peut aller jusqu'au bout du monde, ce que vous avez fait avec la route de la soie. Parce que, à travers la marche, il y a aussi cette notion donc de solitude d'un côté et puis de belles rencontres de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est disponible pour pouvoir dialoguer, parler, rencontrer en fait des gens, Bernard Olivier. Hein.
La marche est totalement liée à la rencontre. Quand on est tout seul, on va à la rencontre de soi-même, si j'ose dire. Et quand donc on marche, mais à condition de marcher seul, on rencontre les gens. Si vous marchez dans la rue à Paris, si vous dites bonjour à quelqu'un, ça va paraître plutôt bizarre. Sur un chemin, tout le monde dit bonjour à l'autre et on s'arrête et on parle de choses et d'autres. Et puis des vraies amitiés se nouent. Moi, j'ai eu effectivement cette expérience unique hein, de la route de la soie où j'arrivais dans des villages où je connaissais à peine la langue. Hein, j'avais un peu appris, mais et où je me suis fait des amis, mais pour la vie, quoi. Je veux dire que alors que c'était vraiment des rencontres très très brèves. J'arrivais le soir et je repartais le lendemain matin. Mais le hasard a fait que en 2005, donc j'avais fait la marche dans les années entre 99 et 2002, mais en 2005, je suis retourné avec un dessinateur pour faire des photos ou des dessins qu'on me réclamait. Et j'ai retrouvé des gens, mais qui avaient garder un souvenir unique de cette rencontre qui tenait absolument à nous retarder. On n'arrivait plus à partir quoi, hein, parce que ces amitiés liées à la marche sont très très fortes. Et d'ailleurs, tous les gens que je rencontre sur Compostelle, qui ont fait le chemin de Compostelle, me disent que ils ont vraiment adoré parce que ils sont partis seuls et ils se sont fait des amis le long du chemin.
Donc alors des gens qu'ils rencontrent avec qui ils marchent ou des gens qui au détour d'un chemin là où ils s'arrêtent pour prendre un verre, pour dormir, etc. Vous dormiez où vous?
Les deux. Ah bah je dormais où je pouvais. Hein. Quand on marche, on dort où on peut. Hein. Et c'est précisément un des aspects.
Ah oui, mais au mois d'avril il fait pas toujours très chaud, donc vous aviez pas forcément la toile de tente.
Oui, bah oui, mais on se débrouille. Précisément, c'est là où il y a une vraie relation. Un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre sur la marche, dit quand vous êtes ennuyé dans un village, vous allez voir la boulangère. Eh ben, c'est la boulangère qui va vous sortir d'affaires parce qu'elle connaît tout le monde. Il faut développer un certain système D. Alors, sur la route de la soie, c'était pas un problème. Les gens se battaient pour me recevoir chez eux, pour me nourrir. Donc, je vois qu'il y a des gens qui cherchent de l'argent.
Il y avait un petit aspect commercial en même temps, quoi, sans doute, non?
Pas du tout. Au contraire, quand je voulais payer mon écho, on me disait, mais surtout pas, surtout pas. Ouais. C'est même arrivé que des aubergistes, donc, ou des hôtels me disent, tu m'as raconté que tu es parti d'Istanbul et que tu es venu jusque chez moi, tu ne me payes pas parce que je vais avoir plein d'histoires à raconter.
Alors ça, c'est à l'autre bout du monde, au coin de la rue, si je puis dire, quand on traverse aussi la France, on voit le pays différemment sans doute, à la fois dans sa composition sociale, les gens, et puis même d'un point de vue géographique.
Ben, d'abord, on constate qu'il y a plein de braves gens qui, au passage, vous invitent à boire un café, vous reçoivent sans vous demander d'abord votre carte de visite ou pour qui vous votez, et on a des échanges très, très chaleureux. Et puis, effectivement, on rencontre du court-marchage, des gens qui marchent dans la même direction de vous ou dans le sens inverse, mais quand ils marchent dans la même direction de vous, on entame des discussions et sur des thèmes quelquefois très approfondis.
Ouais. Et du coup, votre vision change un petit peu, quoi. Et ça vous fait, entre guillemets, progresser par rapport à la situation dans laquelle vous étiez, puisque vous nous l'avez dit en début d'émission, vous étiez un peu déprimé, quoi, à ce moment-là.
Oui, mais nous sommes dans une société de cul-de-jatte. Tout est fait pour nous empêcher de nous servir de nos jambes. Entre le transport, la télévision, le canapé, le bureau, etc., on ne marche plus. Et donc, les corps fonctionnent mal et les cerveaux suivent. Je veux dire que plutôt que de prendre des anxiolytiques, il vaut mieux aller marcher.
Hein. La petite promenade du dimanche, qui était quand même très répandue, qui avait disparu, revient un petit peu. Donc, Frédéric Gros, non? Parce que c'est vrai que vous disiez marcher en solitaire. Il y a aussi marcher à deux, à trois, à quelques-uns, et quand on est dans une marche, on a le temps de parler, de discuter peut-être, plus qu'ailleurs, quoi, non?
Oui, on a le temps de parler, il y a ces rencontres dont vous faisiez état, et c'est vrai que le marcheur a une espèce d'humilité qui est désarmante, c'est-à-dire il n'arrive pas tout armé de ses techniques, etc. Et je crois que c'est ça qui suscite la confiance, qui suscite le dialogue, avec le fait que quand les gens, on peut les retrouver le soir au gîte, et à ce moment là, on partage pas seulement le pain, mais on partage aussi l'expérience du chemin qu'on a fait. Chacun a sa perspective, chacun a eu ses images, et on partage aussi tout ça, c'est-à-dire la beauté du monde qui est resservie au dessert, quoi.
Ouais, ouais. Et marcher donc permet aussi de s'arrêter un petit peu dans le temps, quoi. Hein. On est un peu en suspension, non?
On redécouvre le temps. Oui. On redécouvre le temps et on le gère comme on veut. Puisque entre le moment où on part et le moment où on arrivera, on peut très bien s'arrêter, on peut très bien... effectivement, si on fait une belle rencontre, on peut rester une journée sur place. Moi, sur le chemin en Asie centrale, il m'est arrivé de rester une journée parce que les gens étaient sympathiques et parce qu'on avait envie d'échanger. Donc la marche, c'est aussi la maîtrise de son temps.
Oui. Nous allons poursuivre dans un instant avec vos expériences, vos rencontres et puis le succès grandissant, un véritable phénomène de société, notamment parce que c'est vrai, le printemps arrive, même s'il tarde un petit peu, et puis que pendant ce week-end de Pâques, on peut s'adonner à de longues balades. Vous vouliez ajouter quelque chose juste avant la pause, Bernard?
Ça devient tellement général que je pars là dans 15 jours aux États-Unis pour un congrès international sur la marche. Les Américains sont en train de découvrir, eux qui étaient les rois de la bagnole, sont en train de découvrir les chemins de randonnée.
Oui, c'est ça. La marche, la randonnée, c'est un peu... Bon, on fera le distinguo juste tout à l'heure.
Hein. Avec vos réactions et témoignages, Bernard Olivier l'a dit, nous sommes une société de cul-de-jatte. On ne marche plus assez. Et vous, quel est votre avis? Ben, on vous attend juste après ça.
Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
Et je vous rappelle que la première partie d'Europe 1 midi s'intéresse aux marcheurs. Dans la partie débat, donc juste après midi, on s'intéressera à François Hollande. Selon vous, a-t-il été convaincant hier? Avez-vous été satisfait des mesures annoncées? Vous aurez la parole, vous pourrez dialoguer avec nos spécialistes, dont Jacques Séguéla, le célèbre publicitaire. Au standard d'Europe 1, c'est le 39-21, 34 centimes d'euros la minute, Patrick.
Oui, alors nous parlons de la marche d'ici midi avec nos invités, deux grands marcheurs, Bernard Olivier et Frédéric Gros, qui ont écrit évidemment sur la marche. On n'oublie pas la randonnée au sens général, ce que vous nous disiez à l'instant, donc Bernard Olivier. On a beaucoup de messages qui nous parviennent. Par exemple, Josiane qui nous dit il y a des centaines de bénévoles qui sont sur le terrain aussi pour améliorer les sentiers, etc. Ben, on leur donne et on leur tire un coup de chapeau effectivement pour maintenir tous ces sentiers qui sont de qualité en fait en France. Hein. Bernard Olivier, vous les avez testés. Hein.
Oui, précisément, il y a des milliers de kilomètres de sentiers, ouais, de randonnée. Maintenant, dans pratiquement chaque ville, même les petites, il y a un club de randonnée, hein, de gens qui font la balade toutes les semaines et qui entretiennent en même temps ces chemins, parce que c'est effectivement important qu'on soit guidé par ces signes. Donc, alors, vous avez les chemins de grandes randonnées, les chemins de pays, voilà, il y a des petits signes de différentes couleurs, mais c'est très 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 bien fait. Et effectivement, c'est à travers, grâce à ces bénévoles, que effectivement on peut faire de la promenade en toute sécurité sans risquer de se perdre.
Oui, avec parfois quelques chasseurs. Effectivement, le dimanche, on a eu aussi des messages, effectivement. Mais bon, là, il faut faire attention. C'est vrai que vous l'avez dit aussi, on a tendance à courir, à être en permanence dans nos voitures, alors que comme on le témoigne également par Internet, hein, j'ai ce petit message. Au début, vous êtes fatigué quand vous reprenez la marche et puis vous commencez. Vous faites des portions de 3 à 5 km, c'est déjà très vivifiant. Et puis après, progressivement, vous allez avoir effectivement cette forme et pouvoir éviter de prendre la voiture en permanence. Quoi. Encore faut-il avoir un peu de temps quand même. Hein.
Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est assez progressif. Mais nous avons des potentialités de marche, mais qu'on n'imagine même pas. C'est-à-dire quand on peut présenter aux gens le fait que, on peut marcher 10-12 heures par jour, ils ouvrent des billes en pensant que ça leur serait absolument impossible. En plus avec un sac à dos, en plus avec des chaussures qui peuvent faire mal. Et c'est vrai que progressivement, on arrive à trouver, j'allais dire, dans ce qui peut apparaître, quand on explique ce qu'on fait comme l'horreur absolue, ça devient une source de plaisir, une source de bonheur, parce que on est libéré des aliénations, de la vitesse, du fait qu'on ne sait même plus, on est toujours en anticipation sur ce qui va venir, etc. Et enfin, c'est vrai que la marche nous installe. Ça nous installe dans le monde, ça nous installe dans le présent, voilà. Et c'est vrai que
c'est vivifiant, c'est bon pour la santé d'une façon générale, pour la circulation en fait du sang, etc. Bernard Olivier, vous vous y êtes mis en étant retraité, avec des aspects très positifs.
Hein. Mais je prétends que tout le monde, à moins d'être cul-de-jatte précisément, mais tout le monde peut marcher. C'est précisément la seule activité sportive qui soit ouverte à tout le monde, quel que soit l'âge. Il y a sur les chemins de grande randonnée, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, mais que ça n'empêche pas de marcher. Donc, effectivement, la marche est quelque chose d'universel. Oui. Et elle est, effectivement, il y a beaucoup d'humanité dans la marche. Oui. Parce que, précisément, on est loin des mécaniques, on est loin de la pression, on est loin du stress.
On se rapproche de l'homme, de la nature, quoi.
Voilà. À nouveau, quand j'ai dit je suis agnostique, mais je prétends quand je marche, je tutoie les anges.
Oui. Il y a une incidence sur la sexualité aussi, me dit en fait un auditeur qui nous écrit par Internet. Les grands hommes, Frédéric Gros, vous en parlez dans votre livre, hein, Marcher, une philosophie. Le grand homme aimait justement se ressourcer et s'inspirer, aller chercher de l'inspiration en marchant.
Oui, exactement. Chercher de l'inspiration en marchant. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas qu'il marchait pour se reposer du travail de leur œuvre, mais il marchait précisément parce qu'il trouvait dans la marche l'élément même de la création de leur œuvre. On ne marche pas pour se reposer d'avoir écrit, mais on marche pour, c'est un mot que vous avez employé tout à l'heure, pour se rendre disponible et aux autres, et au monde, à soi, mais aussi à la pensée. Vous disiez, il y a des culs de jatte, Nietzsche écrivait « Être cul de plomb, voilà le vrai péché contre l'esprit ». C'est-à-dire que penser, ça suppose de marcher, et être sédentaire, c'est aussi un handicap de la pensée.
Bernard Olivier, vous aidez aussi, vous essayez d'inciter en tout cas les jeunes pour qu'ils marchent, parce que on parlait des personnes plus âgées tout à l'heure, mais les jeunes ne sont pas forcément des adeptes. Hein.
Alors les jeunes ne sont pas des adeptes, surtout les petits voyous dont je m'occupe, hein, parce que comme on le dit, ils tiennent les murs et puis quand ils courent, c'est parce qu'ils ont des flics aux fesses. Hein. Mais en réalité, si vous voulez, l'association Seuil que j'ai créée et que j'anime, donc s'occupe de jeunes en très grande difficulté, effectivement, dont certains sont qu'on va chercher en prison, hein, qui ont fait un certain nombre de bêtises. Et nous les faisons marcher pendant 3 mois. Ils font 1800 kilomètres dans un pays étranger, sac au dos, sans musique et sans téléphone. Et le résultat est absolument fabuleux parce que ces jeunes, précisément, redécouvrent qu'ils peuvent... Alors, seuil, le nom de l'association, veut dire qu'on leur fait franchir le seuil de la société. Oui. Ce sont des marginaux et qui, d'un seul coup, deviennent sociaux. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent parler aux gens, qu'on les écoute, qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Hein. Y en a un qui, après cette marche, a dit « Quand je suis parti, j'étais un blaireau. Depuis que je suis revenu, je suis un héros. »
Ah, c'est une jolie conclusion, c'est une jolie formule, oui. Marcher pour s'en sortir, c'est justement votre dernier ouvrage. Merci Bernard Olivier. Marcher, une philosophie, aux éditions Carnet Nord de Frédéric Gros. Merci, bonne marche ce week-end. Si vous empruntez les chemins de randonnée, les balades, une vingtaine de minutes par jour, déjà, c'est pas mal. Dans un instant, après les titres de midi, nous revenons sur l'interview de François Hollande. L'avez-vous trouvé convaincant? Nos invités pour en débattre et puis vos questions, hein, je les attends. 39-21. Appelez-nous, la parole à toutes les opinions.
Belle journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est midi.
Europe 1 midi.
Et voici les titres de l'actualité présentés aujourd'hui par Raphaël Chapira et vous, Patrick Roger.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Patrick, bonjour à tous, pardon.
Et à la une, bien sûr, le chef de l'État cible de beaucoup de critiques au lendemain de son intervention à la télévision hier soir.
Et l'opposition s'en donne à cœur joie ce matin. La droite, mais aussi la gauche de la gauche, la presse dans l'ensemble est très sévère. Des critiques sur le fond, pas assez claires, et sur la forme, pas assez présidentielle. Nous reviendrons sur les annonces, mais aussi sur cet exercice sur fond de mauvais chiffres de la dette et du déficit.
Point complet donc tout à l'heure dans notre journal de midi et demi. Et d'ici là, vous aurez la parole au 39-21 et nous allons en débattre avec nos invités. Dans votre journal également, les conséquences de la crise de cheval.
Plus d'un mois après la découverte de viande de cheval dans des plats préparés à base de bœuf, un cabinet d'études révèle une baisse de 43% des ventes et ce n'est pas prêt de s'arranger. La contraception également, accessible gratuitement en pharmacie pour les mineurs, de quoi, dans l'idée, faire baisser le nombre d'IVG. On vous expliquera comment ça marche et puis nous reviendrons également sur cette décision de la Fédération de handball ce matin, qui blanchit Karabatic, Gaïc et Tej. Les trois hommes ne sont plus suspendus pour 6 matchs. En revanche, la justice maintient leur mise en examen pour escroquerie dans l'affaire des soupçons de paris truqués.
Merci Raphaël. Vous nous revenez tout à l'heure à 12h30 pour un journal complet. Juste avant 13h, comme chaque jour, vous avez la parole au 39-21 sur un sujet qui vous a interpellé dans l'actualité. Beaucoup d'appels évidemment après l'intervention de François Hollande dont nous allons parler dans un instant. À 12h30 également un point complet sur la météo avec vous, Valérie. C'est confirmé, le week-end de Pâques s'annonce perturbé avec déjà de la neige. Hein, il y a eu un peu de neige.
Oui, absolument, hein, ce matin et un petit peu aussi cet après-midi, hein, de la Vendée à la Bretagne. Et on a aussi de la pluie incessante de Midi-Pyrénées à l'est des Pays de la Loire, en Rhône-Alpes, Franche-Comté, Limousin et Centre. Pour ce week-end prolongé, attention, si vous rejoignez les stations de sport d'hiver, le risque d'avalanche est élevé, 4 sur 5 sur les Hautes-Alpes et l'Isère. C'est plus sec sur un petit tiers nord avec de belles éclaircies entre la Haute-Normandie et l'Alsace, en passant d'ailleurs par la région parisienne. C'est sec mais couvert plus au nord. Si vous devez partir ce week-end, choisissez justement le nord ou la Bretagne, les Pays de la Loire. C'est là où il y aura le plus d'éclaircies.
Quand la neige va être partie, mais ça fond. Hein, c'est ce que
ah oui, elle tient pas au sol, évidemment. Ouais. Mais ouais, c'est quand même assez exceptionnel
donc
d'avoir 3 cm de neige en Bretagne.
Combien ?
3 cm, jusqu'à 3 cm de neige en Bretagne ce matin.
Oui, bon, c'est
pas mal. À cette saison.
Nous sommes
voilà, on est quand même fin mars.
Nous avions passé Noël au balcon, donc pas cotisons.
Voilà,
c'est ça,
ce, voilà. C'est ça, hein. On va le dire comme ça. Mais l'an dernier, il faisait très très beau à cette époque de l'année. On était en robe d'été.
Ouais. On va vers l'amélioration quand même, progressive.
Alors, pas demain. Hein. Ça va être léger sur le sud-ouest, jusque sur Midi-Pyrénées, avec toujours des orages, de la neige, donc, mais de plus en plus d'éclaircies, de belles éclaircies au nord et de la neige en petite quantité, toujours en Normandie. Dimanche, les nuages vont être très nombreux entre le massif central et les reliefs de l'est, avec de la neige à basse altitude. Sinon ailleurs, donc, ce sera plus sec et plus ou moins ensoleillé. Et lundi, c'est l'amélioration pour les deux tiers nord. Du très beau temps au nord pour lundi de Pâques. Dans le sud, on va garder la pluie, évidemment. Mmh. Mais par contre, les températures vont rebaisser au nord parce qu'on a une bise d'est qui vient nous caresser.
Ce que vous conseillez quand même globalement pour le week-end, c'est d'emmener des pulls et puis des cabans
et des
parapluies.
C'est sympa.
Ah bah c'est très sympa.
On a le chocolat pour nous
quand même juste avant 13h, mais en fait, c'est très bien.
À tout à l'heure.
Europe 1 midi. Patrick Roger.
Jusqu'à 12h30, le débat d'Europe 1 midi. Le chef de l'État s'est expliqué hier soir sur France 2. Décryptage, analyse avec nos invités. Et vos réactions, vos questions, vos témoignages. François Hollande a-t-il été convaincant?
Alors, vous aurez la parole dans quelques minutes. Vous nous appelez au 39-21. Vous réagissez également par Internet sur notre page Facebook Europe 1 midi. Et sur Twitter, évidemment aussi. Nous en parlons donc et nous en débattons avec nos invités.
Nous sommes en compagnie sur Europe 1 de Jérôme Chartier, qui est député UMP du Val d'Oise depuis 2002, Thierry Mandon est député de l'Essonne et porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. Et avec nous, le publicitaire Jacques Séguéla.
Alors, près de 8 millions de téléspectateurs hier. C'est plutôt bien, hein, si l'on se réfère à l'ensemble des scores de président ces dernières années, en précisant bien que ce n'était que sur une seule chaîne, France 2, qui a obtenu une part d'audience de 29%, près d'un Français sur trois devant son écran, ce qui signifie qu'il y avait quand même une attente. Le chef de l'État y a-t-il répondu? C'est ce que nous allons voir. Alors, c'est sur la fin que François Hollande a pris, si je puis dire, de la hauteur. Écoutez.
Vous savez, pour être arrivé là où je suis, j'en ai essuyé, j'en ai enduré des attaques. J'ai le cuir solide, j'ai les nerfs tout à fait froids, le sang froid. Les nerfs ne sont pas à vif. Parce que si je veux réussir, faire réussir la France, moi je ne dois pas être à la première avis de tempête en train de savoir comment je vais changer de cap. Ce que j'ai à faire, c'est à mobiliser le pays. Vous dites chef de guerre ? On n'est pas en guerre, on est en bataille. Moi, je suis en ordre de bataille. Je suis le chef de cette bataille. Ceux qui sont dans les arrière-gardes pour regarder comment se déploient les forces, cela ne m'intéresse pas. Qui reste comme spectateur? Moi, je ne suis pas spectateur, je ne suis pas commentateur de ma propre action. J'avance. J'avance, non pas pour partir dans je ne sais quelle direction, parce que j'ai ce cap. Ce cap, je vous l'ai dit, c'est la croissance.
Voilà donc l'intervention du chef de l'État. Ça, c'était, précisons-le, donc sur la fin de l'émission, où il y avait une forme de stature de chef de l'État, alors qu'auparavant, il se comportait, on dit ce matin sur Europe 1, des politiques en plutôt Premier ministre ou ministre de l'économie. Jacques Séguéla, commençons par vous, peut-être sur la forme.
Oui, le président n'a pas été mauvais. Oui. L'émission a été catastrophique. Moi, je fais partie des 68% d'Europe numéro 1, les 86%. Pardon, 86% d'Europe numéro 1 qui l'ont trouvé.
C'est sur notre sondage internet, je précise. Absolument. Et d'ailleurs, vous pouvez continuer de voter dans un sens ou dans un autre.
Qui n'ont pas été convaincus. Pourquoi ? Moi, je ne veux pas juger de la politique, ce n'est pas mon métier, je veux juger simplement de la communication. Il y a une triple faute de communication. Un, il y a une faute de lieu. Fallait pas aller dans un lieu attendu sur une seule chaîne et pas sur les trois. Et il faut pas s'imaginer qu'aujourd'hui on peut parler 45 minutes en face à face avec un journaliste et que les Français vont vous écouter jusqu'au bout ou vont vous comprendre. C'est une erreur de timing, c'est une erreur de lieu. En plus, il y a une erreur de ton parce que il a voulu jouer. Et c'est présidentialisé, c'est une bonne chose. Mais les présidents normaux, non, on est dans une situation anormale, on n'est pas dans le minimalisme. Il y a une attente maximale. Souvenez-vous de Mitterrand, quand il avait quelque chose à dire, il le disait avec Moruzzi qui s'assied sur la table, ou il le disait avec Guillaume Durand en face de Séguin, et la France entière était touchée. Et puis, il y a une erreur de fond. Il nous fait le coup de la boîte à outils, mais on n'a pas besoin d'un mécanicien. On a besoin d'un ingénieur, d'un bâtisseur, d'un constructeur. C'est ça que les Français attendaient. Il n'a pas été mauvais. On l'a mis, ou il s'est mis tout seul, parce qu'après tout, c'est lui qui décide. Il s'est mis dans une chausse-trappe. Ça ne pouvait pas être réussi.
Ça ne pouvait pas parce qu'il était tout seul face à un seul journaliste.
45 minutes.
Ça a duré plus longtemps. Voilà. Hein. Une heure et quart.
Bon, alors qu'il faut faire 20 minutes. C'est un grand maximum. Et de toute
20
façon,
20 minutes face à un seul journaliste, c'est ce que vous voulez dire.
C'est une bonne dimension.
Ou alors, tout le temps, c'est plusieurs.
Ou alors, il fallait avoir plusieurs personnes en face, et encore mieux, le faire face aux Français. Parce que finalement, qu'attendent les Français,
c'est-à-dire,
un dialogue.
C'est-à-dire face aux Français.
On attend un dialogue. Il nous a sorti un catalogue. Si les Français avaient été là, ils l'auraient secoué. Un journaliste ne peut pas. Le journaliste, il a fait ce qu'il pouvait face à un président qui l'a joué tellement président. Bon, d'abord, il ne fallait pas dire « moi je ». Ce n'est pas le président « moi je », c'est le président « moi nous ». C'est tous ensemble qu'il faut y aller. Il l'a dit sur la fin, d'ailleurs, la fin de l'émission est la partie la plus réussie. Et là, c'est celle où il y a
oui,
le moins
on a
de,
passé ce petit extrait.
C'est là où il reste le moins de téléspectateurs. Mais je trouve que... Alors que je ne veux pas accabler François Hollande, parce que c'est notre président, je n'ai pas voté pour lui, mais je veux que la France réussisse, moi je vote pour la France. Monsieur le Président, il faut arriver à communiquer correctement, débrouillez-vous, vous ne pouvez pas accumuler faute sur faute, ce n'est pas possible.
Oui. Et le journaliste en question aussi, David Pujadas, hein, il sera d'ailleurs ce soir sur Europe 1, dans le 18-20 de Nicolas Poincaré. Sur la forme, alors un mot, Thierry Mandon et Jérôme Chartier. Thierry Mandon, d'abord, ouais. Porte-parole au Parti Socialiste.
Moi je suis assez d'accord sur avec Jacques Seguelin, quand il dit que le président n'a pas été mauvais.
Ouais.
Mais il a même été plutôt bon, et on y reviendra tout à l'heure sur le fond. Mais en revanche, franchement, cette émission, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, dans l'état de crise dans lequel le pays, les attentes des Français, comment on peut penser qu'un QCM, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'université ou dans les grandes écoles, une liste de 70 questions auxquelles on doit répondre à chacune d'entre elles en 30 secondes, comment c'est possible de penser... en 2013, une émission de télévision comme ça. Là, j'avoue que j'ai quelques interrogations sur la forme même de l'émission, pas sur la prestation du président, sur la forme même de l'émission. Ça ne pouvait. Il est monté au front, mais franchement, il est monté au front sans gilet pare-balles et sans protection.
Ah, et pourtant, c'est lui qui l'a préparé avec France Télévisions. Donc c'est l'équipe. Donc chez les socialistes, vous nous dites ce matin, on est quand même déçu par ça, quoi, par cette forme que ça a pris, cette forme de communication pour parler aux Français. On n'a pas bien parlé aux Français. Est-ce que vous voulez dire ?
Non. Bon, après, on va revenir sur le fond parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses importantes, très intéressantes dans cette émission dont je vois très bien ce qui va se passer. D'abord, on se débat, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, réussi, pas réussi. Voilà. C'est une émission qui va percoler dans la vie politique, parce qu'il y a eu petit à petit, les sujets qu'il a abordés hier, les réponses qu'il a apportées sur de très nombreux domaines, s'agisse des retraites, s'agisse de la modification du système des allocations familiales, qu'il s'agisse des allocations chômage, qu'il s'agisse de l'épargne salariale, tous ces sujets-là vont revenir dans les semaines qui viennent dans l'actualité avec comme point de référence cette émission d'hier soir. Et finalement, dans un mois, quand on se dira ce que cette émission était une émission importante ou pas importante, on verra en quoi elle a été structurante du débat et de la vie politique pour les mois qui viennent.
Oui, alors quand même très déçu.
Alors c'était l'oral de rattrapage, mais maintenant il faut de nouveau un écrit de rattrapage.
Très déçu. On verra le fond tout à l'heure. Sur la forme, encore un mot, Jérôme Chartier, député UMP. Vous
Moi j'ai eu un drôle de sentiment hier. En regardant François Hollande, je me suis dit en fait il est en train d'inventer une nouvelle présidence.
Le hollandisme alors, voilà.
Ouais. Il va devenir le président d'une impuissance mondiale. C'est un président qui est impuissant et qui le dit. Il n'a pas de prise sur les événements mondiaux.
Mais
il
ça,
va
c'est
pas
sur
changer.
Le fond ou c'est...
Mais c'est sur la forme et sur le fond. Ouais. Le sentiment que j'ai, c'est que Nicolas Sarkozy était le président de la 5e puissance mondiale. François Hollande devient le président d'une impuissance mondiale. C'est terrible. C'est terrible pour la France. La France... est en voie de déclassement, incontestablement, avec un président qui n'en peut mais, qui ne va pas changer de cap, parce que de toute façon, quand il a un cap, il le garde. Mais voyez, dire « mon cap, c'est la croissance », ça revient à des présidents qui pensaient que la croissance se décrète. Enfin, c'est quand même horrible, voyez-vous. Lorsque vous sentez que quelque chose ne marche pas, tout de suite, vous changez de cap. Vous réagissez vite, le plus rapidement possible. Vous pensez qu'une entreprise, lorsqu'elle sent que son marché est en train de s'écrouler, elle ne bouge pas. Non, elle bouge, elle s'adapte. Et là, voyez-vous, on a quelqu'un qui, manifestement, comprend pas très bien ce qui lui arrive, va garder son cap, parce qu'il faut être déterminé dans la vie. Ben non, c'est plus comme ça que ça marche. Et ce président m'inquiète, je le dis, comme je le pense, comme je l'ai ressenti hier. Il m'inquiète.
Président de l'impuissance, vient de dire Jérôme Chartier. Dans un instant, la réponse de Thierry Mandon pour le Parti Socialiste, qui n'a pas apprécié sur la forme cette émission, mais qui, sur le fond, a noté beaucoup de choses intéressantes. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler au 3921. Tout à l'heure, dans la dernière partie de l'émission, vous aurez la parole.
Midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
Le débat d'Europe à midi se poursuit jusqu'à 12h30. François Hollande a-t-il été convaincant? On en parle avec nos spécialistes. On parle aussi des mesures annoncées. Et vous, est-ce que vous avez été satisfait? 39,21, 34 centimes d'euros la minute.
Patrick. Énormément d'appels qui nous parviennent. Hein. Promis, vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, évidemment, on a dit que sur la forme, ce n'était pas convaincant. Hein. Jacques Séguéla nous l'a dit de façon très claire tout à l'heure. Et y compris d'ailleurs Thierry Mandon également pour le Parti Socialiste, un peu déçu par l'organisation de cette émission en tant que telle. Thierry Mandon, Jérôme Chartier disait à l'instant, donc le président de l'impuissance.
Ça relève de l'élément de langage, mais je comprends le trouble de Jérôme Chartier.
Oui.
Nous étions habitués à un président de la République qui intervenait toutes les 6 semaines, quand là c'est tous les 6 mois, donc la parole est beaucoup plus rare, qui à chaque émission trouvait des boucs émissaires pour expliquer que s'il y avait une crise, c'était la faute d'un tel ou de qui ne travaillait pas, ou de telle catégorie de la population qui vraiment posait beaucoup de problèmes. Il y avait des polémiques, il y avait des dénonciations. Ah, bref, il y avait une sorte de foire qui, de mon côté, relève pas de la puissance, au contraire, d'une certaine aussi forme de masque de l'impuissance, mais ça donnait une sorte de relief et on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait quelqu'un, ah, oh bah tiens, qu'est-ce qu'il va nous dire, qui occupait le siège. Je pense exactement l'inverse. Je pense que le président de la République, hier, a en effet inauguré un nouveau positionnement pour un président de la République sous la Ve République et sous la Ve République avec le quinquennat, parce que c'est ça le problème. C'est que 5 ans, c'est très court, que tous les présidents tournent autour de la question du positionnement. Est-ce qu'on doit être prendre de la hauteur, prendre du recul? Est-ce qu'on doit être au front, mener les troupes et finalement considérer que le gouvernement est là pour mettre en œuvre ce qu'on a décidé, ce qui était à peu près la posture d'hier. Et donc, on a un président qui a pris tous les dossiers du moment, tous les dossiers difficiles qui expliquent la difficulté.
Vous avez dit vous-même catalogue et tout à l'heure.
Ben, catalogue, on lui a posé 60 questions, il fait 60 réponses, mais il fait des réponses précises, dont beaucoup sont des réponses nouvelles. Et je veux souligner ce point parce qu'on va y revenir. C'est un point très important sur l'ensemble du système de la protection sociale. Retraite, allocation chômage, allocation familiale. Il y a des pistes de réforme authentiques qui ont été trop longtemps différées et qui ont été annoncées hier soir.
Jérôme Chartier.
Non, mais moi je comprends. Bon, on se console comme on peut. Moi aussi, j'étais dans la majorité. Je connais l'exercice. C'est très difficile quand on a son chef qui a raté le coche. Il faut trouver des mots. Bon, mais c'est pas très grave. Le problème, il est simple. Il est que il a sorti plein d'outils, plein de trucs. C'est super. Mais les Français, ils sont préoccupés par un seul truc, c'est l'emploi. C'est le boulot, c'est comment on va avoir plus de travail, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent rien d'autre. Bon, ils parlent un peu du contrat de génération. Tout le monde sait que le contrat de génération, pour les grandes entreprises, c'est une supercherie parce que ça ne change rien. On sait que ça ne change rien. Pour les PME, la prime est tellement faible que de toute façon, ça ne va pas bouger, sauf si la PME a marché. On le sait très bien.
C'est fou. Il y a déjà 15 000 contrats signés alors que c'est en place depuis le 1er janvier.
Ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être s'écouter parce que je trouve que c'est vachement pratique par principe. Comme moi, j'aime bien le faire. Non, mais j'aime bien écouter les gens. Je trouve ça passionnant ce qu'ils disent. Puis j'aime bien répondre si ça ennuie pas. Bien sûr, Patrick Roger, je parle sous son contrôle. Mais quand même.
Mais vous pouvez vous contredire.
Mais vous savez, l'un après l'autre, puis derrière, comme ça, les auditeurs, c'est confort. Et moi, j'aime bien le confort des auditeurs. Mais les emplois jeunes, on regarde comment ça marche. Bon, il faut dire la vérité. C'est la même chose. On change le nom. On ressort la même chose. On connaît. Nous, on les a fait aussi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le procès a été voté par certains députés de l'opposition à l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'on connaît très bien le truc, on l'a fait. Sauf qu'on sait aussi qu'en ce moment, les budgets des collectivités sont serrés, donc elles vont prendre au compte-gouttes parce que c'est la vie. Non, ce qui manquait, c'était un vrai sentiment de mobilisation de François Hollande pour l'emploi. Et ça, on ne l'a pas senti. On a senti le catalogue des mesures, on n'a pas senti que tout le monde était derrière le président de la République pour l'emploi. Oui, c'est ça qui est gênant.
Je pense que M. Chartier ne l'a pas senti, mais hier, il n'a parlé pratiquement que de ça. Et en effet, c'est cette histoire de la boîte à outils. Il a rappelé d'abord un certain nombre de dispositifs très importants qui ont été mis en place. Les emplois d'avenir, vous venez d'y faire référence. Le contrat de génération, la banque publique pour l'investissement, le crédit d'impôt compétitivité. Enfin, je ne rentre pas dans les détails techniques. Des dispositions qui, au passage, n'ont pas été votées à l'Assemblée. Aucune d'entre elles, ou quasiment aucune d'entre elles, n'ont été votées par les députés UMP. Ce qui, quand même, pour des gens qui se préoccupent de l'emploi et du chômage, pose question. Et il a annoncé un nouveau paquet de mesures emploi. le déblocage de l'épargne salariale, la débureaucratisation du pays, toujours annoncée, jamais réalisée, les ordonnances prochaines pour la construction de logements, bref, un nouveau paquet de mesures qui s'ajoute à ce qui a été pris. On peut douter de l'efficacité à venir de cela, ça pour le coup c'est le débat politique. Oui. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire tout ce qui est possible pour gagner la bataille de l'emploi.
Le communicant, par rapport
à... Je laisse les politiques à leur politique. Je reviens sur le plus important d'une émission, qui est quand même...
Quel message va passer ?
Oui, le message qui passe. Qu'est-ce qui reste ? Il reste la boîte à outils. Mais on ne veut pas d'un président plombier. On veut d'un président visionnaire. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Mais enfin, les enfants, il faut se réveiller. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Il nous a dit, finalement, mon cap, c'est le chômage... mon destin, c'est la reprise.
Non, mais, Thierry Mordant,
mais pas le chômage. Je suis en désaccord complet avec Jacques Séguéla et c'est intéressant d'en parler parce que les présidents visionnaires, on n'a eu que ça depuis 20 ans et justement, s'il y a des problèmes de tuyaux et de fuites dans les tuyaux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de visionnaires et pas assez de personnes qui se coltinent à boucher les trous.
Jérôme Chartier.
Bon, un mot quand même. Il a dit d'abord mon cap, c'est la croissance et ma priorité, c'est l'emploi. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est bien le problème d'ailleurs. C'est que justement le cap c'est pas la croissance parce que ça se décrète pas et on crée les conditions de la croissance. Bon, c'est bien qu'ils disent la priorité c'est l'emploi, la seule chose c'est que j'ai pas entendu comment est-ce qu'ils marquaient le fait que la priorité c'était l'emploi. C'est tout ce que veulent entendre les Français, ils ne pensent qu'à ça matin, midi et soir. Tout le reste, les histoires des allocations familiales, des machins, des histoires, ça leur passe au-dessus de la tête. Le problème des Français aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un travail au début du mois. Le problème,
j'ai l'impression que ça passe au-dessus de la tête des Français.
Le principe que les allocations familiales, il y en ait, que les riches touchent un peu moins et tout, franchement, c'est beaucoup moins la priorité des Français que vous pouvez l'imaginer, en tout cas, dans une circonscription comme la mienne, qui recouvre la moitié de Sarcelles, qui recouvre des villes difficiles.
C'est
les
l'emploi.
Gens, ils veulent juste bosser.
L'emploi
ils veulent
et sortir. La retraite, quand même, qui
ils veulent sentir.
Hein,
mais non, mais la retraite, c'est après. Ils veulent d'abord travailler. Ils auront une retraite s'ils travaillent. Et le sentiment des Français aujourd'hui, notamment des Français de Sarcelles, mais d'Aumont, mais toutes les communes que j'ai l'occasion de fréquenter, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, qu'est-ce que vous faites ? Comment le gouvernement se mobilise pour faire en sorte que j'ai un travail au début du mois ? C'est tout ce qui compte.
Nous y revenons dans un instant, juste après la pause, avec nos invités, puis quelques réactions que nous allons forcément sélectionner au 39-21, parce que vous êtes très nombreux à nous appeler.
Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
François Hollande a-t-il été convaincant ? C'est la question du débat d'Europe 1 midi. Nous en parlons avec nos spécialistes, avec maintenant vos réactions. Voici Daniel, un militant de gauche, déçu par l'intervention du chef de l'État.
Oui, Daniel, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y, donc vous avez la parole.
Oui, bah écoutez, voilà, effectivement, moi je réagis peut-être un petit peu à chaud par rapport à l'intervention du président hier. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours été à gauche, d'ailleurs j'ai voté pour François Hollande. Néanmoins, bon, je suis retraité aujourd'hui, donc j'ai le temps, j'écoute, je regarde. Et c'est vrai qu'hier soir, j'ai été extrêmement déçu, d'abord sur la forme, d'abord, parce que effectivement, je pense qu'un président de la République doit représenter la France et j'aurais peut-être préféré qu'il soit... dans les ordres de la République, bon, c'était peut-être un petit peu plus adapté. Oui. Mais sur le fond, par contre, là, effectivement, on est extrêmement déçu parce qu'on a l'impression que le président est connecté complètement de la réalité. Oui. On a l'impression d'avoir affaire à un énarque qui, bon, effectivement, donne des outils, comme il dit, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est un jeu de mots, mais apparemment, on n'a pas besoin d'un mécano ni d'un bricoleur. On a besoin de quelqu'un qui va nous enthousiasmer, je dirais. Ouais, et là, ça n'a pas été le cas.
Ouais. Oui. Merci, hein, Daniel, pour votre témoignage. Oh, autre appel hein, avant nos invités. C'est Edouard qui nous appelle,
oui,
lui,
bonjour,
de la Côte d'Azur. Bonjour. Oui.
Eh bien, moi, je suis amplement satisfait de l'explication du président. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris les commentateurs, qui ne comprennent pas que nous sommes passés dans notre quinquennat. Voilà. Monsieur Sarkozy avait un style, Monsieur Hollande en a un autre. Et j'étais très content de cette espèce de catalogue où j'ai su à peu près tout ce qui s'est passé depuis 10 mois. Et je pense qu'il fait passer la pilule amère à M. Hollande pour qu'à mi-mandat ou après, on touchera les fruits de ce qu'on doit faire comme sacrifice.
Des réformes, quoi. Oui, vous allez dans le sens de Thierry Mordant. Merci, hein, Edouard. Thierry Mordant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, quoi.
Oui, c'est presque ça. C'est presque ça. Je conçois que ce soit un exercice, encore une fois, difficile pour les Français, qu'on soit favorable au président, ou plutôt réservé par rapport au président, parce que cette heure et demie de réponses multiples à des questions incessantes, c'est quand même difficile d'en sortir une idée ou deux idées claires, bien que cette émission, sur le long terme, structurera beaucoup les débats.
Vous avez compris aussi, quand même, ce que disait Daniel tout à l'heure, hein, c'est-à-dire sa déception, il attendait, lui, des choses beaucoup plus concrètes, notamment sur l'emploi, comme le disait
Jean-Charles.
Sur l'emploi,
s'il y avait une recette miracle.
Ça saurait. Oui.
Ça fait 60 mois que le chômage progresse chaque mois. 60 mois, c'est-à-dire quasi la deuxième partie du quinquennat de M. Sarkozy et le début de celui de M. Hollande. Donc s'il y avait une recette miracle, ben, je pense qu'elle aurait déjà été trouvée et mise en place.
Oui. Jérôme Chartier.
Mais on le connaît, il y a des recettes miracles, c'est que l'emploi soit compétitif, donc qu'il soit moins cher. Et on avait lancé une mesure à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui consistait à faire une TVA compétitivité. Bon, résultat, la mesure a été annulée pour des questions purement idéologiques par François Hollande. C'est quand même bien dommage. Moi, je pense que ça aurait permis sans doute de réduire l'effet de création du chômage qu'on constate aujourd'hui. Lorsqu'on dit c'est la même chose depuis 60 mois, c'est pas vrai. Il faut quand même
cela
savoir.
Cela dit, les chiffres, quand on les regarde globalement.
Non. La vérité, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres du mois de janvier, on a franchi un cap qui est extrêmement inquiétant, qui est le cap de 1500 chômeurs par jour.
Oui.
Par jour. On en était à 1000, c'est déjà catastrophique. On est passé à 1500, c'est absolument hallucinant. Ça veut dire simplement que les choses s'aggravent. Si on n'a pas conscience que ça s'aggrave, dans ce cas-là, oui, c'est vrai, comme le disait l'auditeur, on ne vit pas dans le même monde.
C'est pas un problème de conscience, tout le monde a conscience que le chômage, la proposition qui est édulcorée, qui s'appelle TVA compétitivité, qui d'ailleurs fait partie du nouveau programme de l'UMP qui a été encore augmenté, c'est de passer le taux de TVA à 23%. Si ça, franchement, c'est une proposition qui vise à améliorer la situation des Français, je me pose quand même quelques questions.
Très court, Jean Chartier, et puis ensuite la conclusion de Jacques.
Juste un mot, c'est ce qu'a fait le Danemark, le chômage est moitié moins important qu'en France, et donc par conséquent, c'est une vraie solution. Il faut
conclusion,
juste
Jacques Séguéla, il faut du service après-vente maintenant.
On est là pour juger d'une émission. L'émission n'est pas réussie, même si le président a été bon, c'est la bonne nouvelle. Elle n'est pas réussie parce que ses communicants n'ont pas respecté la règle de base qui est la règle de 3. Jamais plus de 3 idées dans une émission, qui était mission impossible dans une émission d'une heure et demie. Et finalement, je me souviens de Mélenchon qui a traité le président de capitaine de pédalo. C'était faux et c'était méchant. Je pense que là, le président a essayé d'être le commandant du paquebot France. Mais les auditeurs et les téléspectateurs, ils sont restés dans les canaux de sauvetage.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, le journal complet de la mi-journée. Et puis, vous pouvez continuer de voter sur Europe 1.fr.